Seigneur Jésus-Christ, Seigneur trois fois saint, nous te remettons ce temps. Tu es venu nous annoncer un chemin nouveau, un chemin pour nous libérer du péché. Et un des points les plus importants de ce chemin, c'est le pardon. Comment renouveler ce qui a été brisé? Comment réparer ce qui a été détruit? Comment nous réconcilier avec toi, Père Céleste, par la grâce de notre Fils Jésus-Christ? Et comment manifester cette réconciliation dans le monde? Nous te remettons ce temps alors que nous allons étudier un texte sur le pardon aujourd'hui. Donne-nous ta grâce et glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Bonjour ou rebonjour. Le pardon est un des concepts, un des éléments les plus importants de la foi chrétienne. Tellement important que je vais me permettre de faire deux prédications. Une première prédication cette semaine sur un texte biblique spécifique, qui est juste le texte auquel nous arrivons dans le chapitre 18 de Matthieu. Et la semaine prochaine, de vous montrer comment le pardon est vraiment un fil rouge à travers toute la parole de Dieu, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Parce que le pardon, finalement, est un élément fondateur, fondamental de la foi chrétienne. Si vous l'enlevez, alors vous enlevez Jésus-Christ, finalement. Parce que le cœur du message de Jésus est un message de pardon de Dieu envers nous pécheurs. Et nous allons voir un petit peu comment ces choses s'articulent, comment le pardon que Dieu nous donne nous invite nous-mêmes à pardonner. Et comment c'est finalement un fondement de toute communauté humaine. Là, dans une communauté où il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de vie. Et la communauté disparaîtra forcément avec le temps. Et quand nous avons des blessures dans le passé qui nous empêchent de pardonner, elles font des dégâts dans nos vies et des dégâts dans la vie des autres. Et ça sera surtout le sujet de la semaine prochaine, même si j'aborderai un petit peu ces points déjà cette semaine. Ce chapitre 18 de l'évangile de Matthieu est un chapitre vraiment qui nous parle de la communauté. Dans une communauté déjà, on a à se rappeler que la question, c'est pas d'essayer de prouver qu'on est plus important les uns que les autres. Les disciples ont dit qui est le plus grand. Et Jésus a dit, attention, la question n'est pas de savoir qui est le plus grand. Si vous voulez être le plus grand, il faut être serviteur, c'est l'humilité. Apprendre à souhaiter le meilleur pour l'autre, c'est le fondement d'une vraie communauté. Et je lisais un article cette semaine sur Facebook. Et c'était dans un magazine américain, Wired, qui n'est pas du tout chrétien, mais qui est très intéressant et qui disait... Pas du tout chrétien, des fois on fait l'erreur, j'aimerais faire une petite mention, de croire que il ne faut regarder que les choses chrétiennes. Rappelez-vous que le Seigneur est à l'œuvre dans beaucoup d'endroits. À nous d'apprendre à discerner. Si vous voulez regarder des choses où tout est parfait, même un magazine chrétien devient dangereux. Parce que même dans un magazine chrétien, il y a des choses imparfaites. Mais si vous cherchez la grâce de Dieu avec son esprit, vous allez la trouver dans des endroits surprenants. Et je mentionnais ce magazine, Wired, qui faisait une analyse sur Facebook. Facebook, vous connaissez? Qui est-ce qui a un compte Facebook parmi vous? Pourriez me dire? Voilà. Vous faites partie des 500 millions de personnes qui ont déjà un compte Facebook. Et le gars disait, c'est intéressant parce que, il y a 10 ans, si quelqu'un commençait à être fier, par exemple, il racontait qu'il avait un groupe d'amis qui se rencontraient, des jeunes qui essayaient d'apprendre à écrire des articles. Et une personne est venue dans leur groupe, eux, c'était un peu des gens qui arrivaient pas très bien, qui avaient des difficultés. Puis une personne arrive dans leur groupe et leur parle comment elle arrive à écrire, qu'elle a envoyé ses articles, qu'ils ont été acceptés, tout ça. Et ils racontent comment, quand ils ont entendu ça, ils ont commencé à dire, bon, on va finir la réunion. Et entre eux, ils se sont donné rendez-vous à un autre endroit où cette personne n'était pas conviée. Parce que finalement, ça leur cassait les pieds qu'une personne leur dise « Moi, je suis super, regardez tout ce que j'ai fait. » Et dans Facebook, si vous observez bien, les gens vont montrer tout ce qu'ils font de bien si possible. On ne va pas montrer les choses où on est petit. On va montrer où on est super, où on est vraiment... Et dans le sens de, en anglais, bragging, de montrer un peu qu'on est super, Facebook peut être un endroit risqué. Donc, il y a toute une sagesse. Rappelez-vous que Facebook, c'est votre histoire qui va vous suivre toute votre vie. Il y a eu, sur les 500 millions d'utilisateurs, 100 millions d'utilisateurs qui, parce qu'ils donnaient des données de manière publique, ont été regroupés et transmises par une personne à tous ceux qui voulaient le recevoir. Il ne l'a pas vendu, il l'a donné à tous ceux qui veulent. Sur 100 millions de personnes dans ce monde. Est-ce que vous faites partie de ces 100 millions? Je ne sais pas. Mais sachez que ces informations sont publiques pour beaucoup et que ça demande sagesse. Pour vous dire, la communauté, ce n'est pas sur qui est le plus grand. Facebook, c'est une communauté virtuelle, mais qui manque un des éléments fondamentaux, même si c'est un très bon outil, honnêtement, moi-même je suis sur Facebook, et c'est un très bon outil. Mais il lui manque un élément fondamental d'une vraie communauté. Quand vous ne vous entendez pas avec quelqu'un sur Facebook, qu'est-ce que vous faites ?
Ignorer.
Ignorer. On coupe la relation. C'est fini. Sur Facebook, la notion de pardon n'existe pas. Sur Facebook, la notion de réconciliation est quasi inexistante. On coupe toutes les relations qui nous embêtent, on reste qu'avec nos copains, avec ceux avec qui on est similaire. Et vous allez, si vous continuez dans cette démarche, vous retrouvez seulement avec les gens qui vous ressemblent, qui ont le même type de blessure, qui ont le même type de passé. Ça, c'est pas une communauté. Une communauté, c'est des personnes différentes, avec des arrière-plans et des cultures différentes, qui apprennent à se respecter, à s'estimer, à se pardonner. Pour continuer dans ce chapitre, on avait ensuite les causes de chute. Comment, si on méprisait quelqu'un de petit, quelqu'un qui est en train d'apprendre des éléments de la foi, d'apprendre à aimer Dieu, à aimer son prochain, c'était très grave. Et ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Ensuite, il y a la parabole de la brebis perdue. Comment, si l'un d'entre nous, dans notre foi, on peut échouer, nous avons ceux qui ont l'impression qu'on est fort avec Dieu, et c'est toujours une impression, mais qu'on a une communion avec Dieu, qu'on a à être gracieux avec ceux qui ont pu s'éloigner, prier pour eux, essayer de trouver ce que nous pouvons faire pour les encourager, pas leur casser les pieds, hein, pas leur les assommer de coups de téléphone. Si les personnes ne veulent pas, on ne peut pas faire beaucoup plus, mais vraiment avoir soin dans la communauté que tout le monde aille bien, que tout le monde puisse se retrouver et vivre ensemble de manière harmonieuse. Un point capital qui était la fin du sermon d'il y a 2 semaines, si un frère ou une sœur a péché contre vous, qu'est-ce qu'on fait ? Si quelqu'un nous a fait du mal, nous a blessé. Un point clé, c'est que pour vivre en communauté, on a besoin de dire la vérité. Si une personne a dit une parole, je vais faire ceci, et que l'autre l'a entendu et s'est beaucoup accroché. Par exemple, un tel m'a dit, je vais t'inviter ce soir à tel endroit. Et la personne, j'ai beaucoup d'estime pour cette personne, ou bien, et cette personne ne m'invite pas. Peut-être que la personne a simplement oublié. Mais pour moi, peut-être je serais très profondément blessé. Et ma tâche, si on vit dans une vraie communauté, ça va être d'aller seul à seul avec la personne et de lui dire, tu m'as dit que tu ferais ça et tu ne l'as pas fait. Pas d'accuser, mais de dire les faits. Et de dire, voilà, j'aimerais te dire que cela m'a blessé. Ne pas continuer, mais ensuite donner l'occasion à la personne de répondre. Certains vont vous dire, oui, mais j'avais beaucoup de choses à faire. Oui, mais ma semaine était très occupée. Qu'est-ce que c'est ça ? Quel type d'attitude spirituelle ça serait ça ? C'est ce qu'on appelle de la justification. On ne veut pas entendre parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'on a fait des fautes. On n'aime pas faire des fautes. Et la justification la plus classique, c'est « je ne voulais pas te blesser ». La justification la plus classique, c'est « je n'avais aucune mauvaise intention ». Nous confondons ne pas pécher et avoir été sincère. La sincérité n'est pas suffisante pour marcher avec Dieu. Rappelez-vous de l'expression « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Le chemin vers l'enfer est pavé de bonnes intentions. Merci pour la correction. Finalement, ce chemin qui nous amène à la perdition, c'est de croire que nous sommes la référence. L'image que j'ai par rapport à la blessure, et on va voir l'autre aspect. Là, on voit l'aspect si on a été blessé. Ça demande du courage d'aller voir l'autre. Hein. C'est difficile. Mais c'est important parce que sans cela, il n'y a pas de communauté. La communauté est cassée. La relation, on est des êtres de relation, on est des êtres faits pour la communauté. Mais si on ne peut pas dire ça, si on ne peut pas dire, tu m'as dit une parole qui m'a fait mal, finalement sur le long terme, la communauté va casser. Alors je vais être honnête avec vous, si vous vous rendez compte que vous avez fait quelque chose et que ce n'était pas juste, n'attendez pas de savoir, peut-être j'attends que l'autre aille me voir. Non, allez-y le premier. Si vous discernez que vous avez fait du mal, ce n'est pas une question d'attendre que l'autre le fasse, c'est votre tâche. Devant Dieu, vous ne pourrez pas, Dieu ne vous dira pas, oui, mais c'était à l'autre de faire. Dieu vous dira, pourquoi tu as fait du mal à telle autre personne? Et là, vous retournez au verset 6, si vous blessez quelqu'un et que vous vous en rendez compte, alors il faut réparer, dans la mesure du possible, faire ce que vous pouvez. C'est vrai pour chacun d'entre nous. Je vais être honnête avec vous, ce n'est pas quelque chose qui va disparaître. À un moment, vous aurez atteint tel degré spirituel et vous ne blesserez pas les autres. Ce qui va se passer, c'est que vous ne le ferez plus de manière volontaire. Mais involontairement, vous vous rendrez compte à un moment, je me suis planté. J'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Et donc, cette question du frère qui a péché contre nous est importante. Et si la personne n'entend pas, pour que la communauté demeure, et bien on va venir avec quelqu'un d'autre qui va, et ensuite on a tout le chemin qu'on peut relire dans les versets 15 à 17. On va passer à l'autre côté. Aujourd'hui, on va passer au côté qui nous touche le plus directement. La question de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Pardonner à ceux qui nous ont blessés. Pourquoi? Comment? Ça va être le sujet du sermon d'aujourd'hui, basé sur ce texte de Matthieu. Une chose que vous devez vous rappeler, j'utilise souvent la même image qui me semble être adaptée. Imaginez un archer qui pointe une flèche dans une direction et qui la lâche. Il ne sait pas très bien où elle part, il sait juste qu'il a lâché la flèche. Et cette flèche part et va blesser quelqu'un. Est-ce que la personne au loin a pu être profondément blessée?
Ça dépend.
C'est possible que la personne ait été blessée. Est-ce que moi, ça a été très douloureux, le lâcher la flèche?
Non.
On a à peine senti. C'est très léger quand on lâche la flèche. C'est très délicat, il y a juste un petit moment où on sent la corde qui part de chose, l'arc qui vibre légèrement, et c'est fini. C'est tout. Mais de l'autre côté, les dégâts peuvent être catastrophiques. Ça, c'est la réalité du péché dans notre monde. Ne croyez pas que parce que vous n'avez rien senti, vous n'avez pas blessé les personnes. Nous sommes comme des éléphants dans un magasin de porcelaine dans ce monde. Nous avançons et nous blessons bien plus de personnes que nous voudrions le reconnaître. Et si nous ne voulons pas nous en rendre compte, finalement, nous manquerons le cœur de l'Évangile, qui finalement est fondé sur la notion de pardon, de réconciliation. Pour qu'il y ait réconciliation, il y a la question de pardon. Je lisais l'histoire d'un commentateur de la Bible, commentateur récent, qui était aux États-Unis et qui raconte l'histoire. Lui, il avait eu un papa qui c'était un beau-père, sa mère, on ne sait pas dans l'histoire ce qui s'est passé, mais elle s'est remariée. Et ce beau-père l'a humilié, l'a frappé et a été violent avec toute sa famille, avec lui, ses frères et sœurs et sa mère. Et un jour, alors qu'il était jeune adolescent, ce beau-père est parti. Il s'en va, ce jeune homme grandit, devient un adulte. Une fois, il va à la guerre au Vietnam et en même temps qu'il fait la guerre, il repense à son passé. Il se dit, le jour où je reviens chez moi, le jour où je revois mon beau-père, je vais le tuer. Le jour où je le revois, je le tue. C'était pas à la légère. Il était en train de tuer des personnes au Vietnam. Il savait maintenant ce que c'était que tuer quelqu'un. Il s'est dit, c'est ce que je veux faire à mon beau-père. Il revient. Et il lui arrive une chose, il devient chrétien. Il est touché par l'amour de Dieu, il devient chrétien. Il se marie, il commence à avoir une jolie famille, et un jour, son beau-père le retrouve, et vient à la maison. Sa femme, qui est très gracieuse, l'accueille à l'intérieur et lui arrive avec son beau-père dans la maison. Ils sont en train de discuter, il s'assoit, il discute un peu, une minute ou deux, et après il lui dit: j'aimerais te dire une chose. Quand j'étais au Vietnam, il y a de cela 4 ans, j'ai promis que le jour où je te reverrai, je te tuerai. Aujourd'hui, c'est le jour. Il commence à voir son beau-père qui se rentre dans le siège et qui commence à être terrifié, qui commence à prendre conscience du sérieux des paroles. Et il continue, cette personne, qui a écrit un commentaire biblique, donc il n'a pas tué son beau-père, et il lui dit: mais j'aimerais te dire une chose, je suis devenu chrétien. Et dans la foi chrétienne, j'ai accepté le pardon de Jésus, j'ai accepté d'être pardonné. Et si j'ai accepté d'être pardonné, j'ai pris conscience de mes péchés. Et je sais que finalement je suis pécheur comme toi. Et je te pardonne toute la violence que tu as eue envers moi, mes frères et sœurs et ma mère. Mais ne crois pas que c'est de la faiblesse. Ne crois pas que tu peux venir continuer à faire du mal chez moi. Ça n'est pas permis. Et il s'est arrêté là. L'histoire ne dit pas s'il est devenu ami avec ce beau-père ou pas. Mais il a manifesté le pardon que Dieu lui demandait de manifester. Il n'a pas manifesté de la faiblesse. Ne confondez pas pardon et faiblesse. Il a manifesté le fait qu'il a pris conscience que ce pardon faisait partie intégrante du salut en Jésus-Christ. J'aimerais maintenant qu'on se tourne vers le texte d'aujourd'hui. Alors on va... C'est vrai que c'est moi qui ai le machin. On va voir les premiers versets. J'aimerais vous lire les versets 1 et 2, pardon, 21 et 22. On est juste après que Jésus ait parlé de comment, quand un frère a péché contre toi, tu vas lui dire, et comment une réconciliation peut être possible. Et Pierre pose la deuxième question du chapitre. La première, c'est qui est le plus grand? La deuxième, c'est la question que Pierre pose maintenant. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Jusqu'à 70 fois 7 fois. Certaines Bibles auront jusqu'à 77 fois. Ne vous inquiétez pas du nombre, ce n'est pas un souci, ce n'est pas question de savoir si c'est 77 ou 7 fois 70 qui fait 490. Le texte grec laisse possible les deux options, c'est pas important. Ce que Jésus est en train de lui dire, c'est que tu dois pardonner sans limite. Tu dois pardonner, c'est pas une question de mesure. Cette réponse de Jésus est choquante. D'abord parce que la question de Pierre est juste. Pierre a vu comment on devait venir à quelqu'un qui avait péché. Et Pierre est pas bête, il réfléchit, il se dit: bon ben ok, quelqu'un pêche contre moi, je vais lui dire, il me dit: oh, je me repens du mal que je t'ai fait, je te demande pardon. On continue. La personne revient et refait la même chose. Tu viens la revoir, tu lui dis, et elle te demande pardon. Tu lui pardonnes, deuxième fois. Troisième semaine. La personne t'insulte en public, ou t'abîme encore ta voiture, ou te vole ta montre. Tu viens la voir, tu lui dis: mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, t'as encore fait la... Oh, je te demande pardon, mon frère, ma sœur. Pierre se dit, bon, ça peut aller jusqu'à un certain nombre de fois, mais cette histoire-là, il y a un moment, il va falloir dire, on s'arrête. Dans la tradition juive, qui a été transmise, par exemple, à travers le Talmud, il y avait une règle qui disait, après 3 fois, on n'a plus besoin de pardonner. Après 3 fois, le jugement de Dieu. Pierre essaye d'être vraiment gracieux avec Jésus. Il se dit, allez, on va aller plus loin que les règles des scribes et des pharisiens. Il lui dit, est-ce qu'on a un nombre de fois? Est-ce que toi, tu donnes un autre nombre que les pharisiens? Est-ce que 7 fois, c'est suffisant? C'est du bon sens. Est-ce qu'on va laisser se faire blesser sans arrêt et puis on va devoir à chaque fois pardonner? Ça n'a pas de sens. Donc Pierre, sa question est très valide et lui dit, 7 fois, est-ce que c'est bon? C'est beaucoup déjà, 7 fois, hein? Et Jésus lui lui fait exploser sa réponse. Il lui fait exploser sa réponse. Il lui dit, tu prends ton 7, tu le multiplies par 70 et ça te donne une idée. En gros, il lui dit, tu peux y aller, tu peux pardonner, tu n'arriveras jamais jusqu'au bout du pardon auquel Dieu t'appelle. Pardonner, qu'est-ce que ça veut dire ? Pardonner, il y a trois éléments. Le premier élément, c'est une blessure. Quelqu'un vous a blessé. Deuxième élément, vous lui en voulez, ou vous, ça, la personne a une dette envers vous. Une dette, a debt, est finalement quelque chose où vous savez qu'elle vous a fait du mal. Et que quelque part, il y aurait, si on était dans un monde de justice, il y aurait une rétribution possible. Je vais être honnête avec vous, la justice française a ses limites. La rétribution absolue n'est pas dans ce monde, mais nous sommes des êtres de justice. Nous avons un sentiment de justice très fort, particulièrement quand c'est par rapport à nous. Et nous voulons qu'il y ait une justice qui soit faite. Troisième élément du pardon, c'est de dire « Je renonce à réclamer la dette que la personne me doit. Je renonce à exiger que la personne me rende des comptes. J'y renonce. » Alors on peut se dire, mais c'est opposé à la justice. Si on y réfléchit, on peut se dire, le pardon est quelque part quelque chose qui semble opposé à la justice. Seulement, si on considère que nous sommes Dieu et que nous sommes parfaits, c'est seulement quand on se prend pour Dieu que la justice, on veut l'infliger aux autres. Mais si nous prenons conscience de notre péché, si je prends conscience de mon péché, alors nous allons voir dans ce texte, on va comprendre quelque chose de fondamental. Et c'est ce que Jésus veut faire comprendre à ses disciples, et je vais vous lire le texte. Les versets 23, déjà jusqu'à 27. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre des comptes à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur se laissa aller et lui remit sa dette. Vous avez un roi et vous avez un serviteur qui doit 10 000 talents. Un talent, ce n'est pas d'abord une capacité, un don, une aptitude que nous avons. C'est le sens qui est demeuré en français, mais le sens ancien, un talent, c'était une mesure, un poids pour de la monnaie, de l'argent, un poids d'argent. Et dans l'ancien temps, ce n'était pas un nombre de pièces, c'était un poids physique. Un talent, ça pesait à peu près 30 kilos. Un talent, c'était à peu près 30 kilos de poids. Aujourd'hui, on n'a pas des mesures exactement identiques, donc c'est juste approximatif. 30 kilos de quoi ? Quand on ne mentionnait pas de quoi c'était fait, en général, c'était d'argent. 30 kilos d'argent, ça correspondait à peu près à 20 années de salaire d'une personne, d'un travailleur, 20 années de SMIC, 1000 euros par mois, 12 000 euros une année, 20 années, ça fait à peu près 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Si on voulait en rendre, ça ferait quoi, 20 millions en rendre, c'est à peu près 10 rendre pour 1 euro. Donc à peu près 20 millions de rendre. Bon, plus ou moins de, à peu près. Et c'est 2 millions d'euros. C'est ça ? 1 euro. 200 000 ? Non, si c'est. Si la personne doit 20 000. 10, alors attends, on a dit 12 000. Par mois, tu as raison, 200 000, disons, ouais, 200, à peu près 240 000 euros pour 20 ans. Donc ça ferait, mais maintenant ce n'est pas un talent, c'est 10 000. Donc 200, les 200 000 euros, on les multiplie par 10 000. 200 000 fois 10, ça fait 2 millions. Aidez-moi, donc 2 millions d'euros fois 1 000, ça fait combien ? 2 milliards d'euros. Ça fait combien de, disons, une maison à 100 000 euros ? C'est joli. Combien de maisons comme ça ? 2 milliards. Ça ferait 20 000 maisons. 20 000 maisons. Disons une très belle maison à 500 000 euros. Là, on est vraiment dans les super villas, je pense. Hein. Je ne connais pas très bien les prix, mais on... 500 000 euros. Combien ? 4 000 maisons comme ça. Vous vous rendez compte un peu du montant ? Le but, c'est vraiment de nous faire exploser nos idées de mesure. Hein. 2 milliards d'euros. Personne n'a cette somme. Ça touche aux plus grandes fortunes dans ce monde. Ce serviteur, certains essayaient s'imaginer, bon, bah, si c'était réel son histoire, c'est une parabole. Hein. Le but de la parabole, c'est pas de vous faire quelque chose de réel. C'est de vous aider à comprendre quelque chose. Mais si c'était réel, c'est que peut-être cette personne aurait dû être un gouverneur soumis à un roi. Il est serviteur d'un roi. Maintenant, c'est pas le problème. Le problème, c'est que ce montant qu'il doit est immense. Est-ce que si vous devez 2 milliards d'euros, vous avez des chances de pouvoir rembourser ? Excepté si vous vous appelez Bill Gates et que Microsoft va sortir une nouvelle tablette PC qui, nous l'espérons, sera capable de concurrencer un iPad, ou que vous avez une idée géniale d'un appareil que l'armée américaine va vous acheter, vous avez très peu de chances de gagner 2 milliards d'euros. Hein ? Un moteur qui marche avec de l'eau, que tous les gouvernements européens vont vouloir vous acheter. Très peu de chance. Pourtant, le roi va lui pardonner. Le serviteur lui a dit: aie patience envers moi et je te paierai tout. Aie patience envers moi et je te paierai tout. Qu'est-ce qui se passe quand le serviteur a une grosse dette? Il lui dit: je vais y arriver. Est-ce que vous avez déjà vu des gens dans des casinos qui jouent au jeu? Les gens qui jouent au jeu, je ne vous y encourage pas. Pour moi, c'est un des endroits qui crée le plus de malheur sur cette terre et qui détruisent le plus de couples. C'est une réalité. J'avais un arrière-grand-père qui était serviteur d'un baron français, et il était celui qui allait mettre les paris dans les courses. Et il y a eu un problème, c'est qu'une fois il a changé de travail, mais il avait pris tellement de joie et de plaisir à mettre les paris du baron qu'il a continué à le faire, mais cette fois-ci plus avec l'argent du baron, avec son argent. Et il a ruiné toute sa famille et ça a été une catastrophe. Cette histoire, c'était l'histoire d'un arrière-grand-père en France pour moi, mais ça a été l'histoire de beaucoup de gens dans beaucoup de pays. Le jeu, c'est quand vous jouez, vous vous dites encore une fois, et l'expression en français, c'est « et je vais me refaire ». Je dois 10 000 euros, mais encore une fois, et cette fois, avec la bonne foi. Je le vois. Et les gens, si vous les écoutez, ils vont vous dire « je le vois, ça va arriver, j'en suis sûr ». Parce qu'ils ont eu l'expérience de gagner dans le passé, et ils ont la naïveté de croire que cette expérience va se reproduire. C'est des gens qui sont drogués au jeu. Les drogues, ce n'est pas seulement des choses physiques, ça peut être aussi... quelque chose comme le jeu. Et là, le serviteur est un peu comme ça. Il dit: je vais me refaire. Le maître va pas lui dire: bon, bah d'accord, je te donne du temps. Parce que le maître, lui, il n'est pas prisonnier de cette naïveté du serviteur. Il va lui dire: ok, je te pardonne. Maintenant, nous passons à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est: qu'est-ce que va faire le serviteur de ce pardon ? Verset 28 et suivant. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. 100 deniers, c'est 100 jours de travail. Un denier, c'était le montant, si vous voulez, pour une journée de travail. Il le saisit et l'étranglait en disant: « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant: « Aie patience envers moi et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas. et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Vous voyez le parallèle ? Lui, il avait dit à son maître, je te paierai tout. Là, l'autre lui dit, je te paierai. Le maître, le roi, pardon, est-ce qu'il avait saisi le serviteur à la gorge ? Non. Là, lui, il étrangle l'autre. Et il lui dit, tu vas me rendre mon argent. Vous voyez la violence ? Vous sentez la différence ? Le roi disait, je vais te faire esclave. C'est-à-dire que tu vas travailler, tu vas faire partie des gens les moins respectés dans la société, tu seras dépendant d'un maître, mais il va continuer à vivre avec sa famille. Lui, qu'est-ce qu'il va faire avec ce serviteur ? Il va l'envoyer à la prison de ceux qui devaient des dettes. C'était une prison un peu particulière, où le but c'était de torturer les gens pour que les gens utilisent tous les moyens qu'ils ont d'obtenir l'argent rapidement. On va torturer les gens pour qu'ils appellent au secours leur famille, leurs amis, leurs parents, tous ceux qu'ils peuvent connaître pour ramener la dette. Le but est centré sur l'argent, pas sur la personne, sur l'argent. On va utiliser toutes les techniques possibles pour obtenir notre argent. On aimerait bien vous dire que la torture est un moyen qui a disparu aujourd'hui. Ça n'a pas disparu. La torture est encore utilisée parce que dans certains cas, les gens se disent, si on veut très fort quelque chose qu'on considère très important, on va utiliser ce moyen. Il y a plusieurs problèmes avec la torture. Premier problème, c'est que la personne est prête à dire tout ce que vous voudrez, même des mensonges. Et les mensonges ne vont pas être très utiles. Deuxième problème, c'est que la torture n'est pas centrée sur la personne, elle est centrée sur l'information qui est devenue première. Mais quel droit est-ce que nous avons de torturer ? Donc c'est un problème. Mais là, cette personne a voulu torturer jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il avait, ce que l'autre lui devait. J'aimerais vous lire les versets 31 à 35 maintenant. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier la dette. Parce que tu m'avais supplié, ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Si chacun ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Certains d'entre nous, nous aimons parler d'amour inconditionnel de Dieu. J'aimerais vous dire, non, l'amour de Dieu a une condition, c'est que vous décidiez de montrer de l'amour envers les autres. Je n'ai pas dit être stupide. Vous vous rappelez de l'histoire que j'ai mentionnée au début, avec l'homme et son beau-père. Est-ce que l'homme a dit à son beau-père, « Vas-y, refrappe-moi, fais du mal à ma famille ?» Non, il lui a dit, « Non, ça tu ne peux pas faire. » Mais moi, je choisis de ne plus te vouloir du mal. Je choisis de ne plus rester avec ces sentiments de haine dans mon cœur. Je te pardonne. Je coupe la chaîne du péché. Le fondement de cette parabole est très simple. Le fondement de cette histoire est très simple. Celui à qui on a pardonné beaucoup sera prêt à pardonner. Celui qui ne se rappelle pas qu'on lui a pardonné, va devenir quelqu'un qui exige qu'on lui le paie en retour. Et si vous y réfléchissez bien, c'est une question de perspective. Quelle est notre perspective ? Est-ce que notre perspective, c'est de faire des comptes ? Un tel, ma femme, mon mari, mon enfant, mon grand-père, mon ami, ma sœur, a fait ceci, ceci, ceci et cela envers moi. Là, on est du côté du serviteur impitoyable. Il a des dettes envers moi. Ça, c'est la perspective de la chair. Le texte biblique que je vous mentionnais au début, dans Galates, décrivait les œuvres de la chair. Et les conséquences de cette attitude, ça sera animosité, rancœur, jalousie, désir de mal pour l'autre. Toutes ces choses vont venir.
caractéristique de ne pas pardonner.
Voilà, caractéristique d'un cœur qui est amer, qui n'a pas pardonné. Ça sera les conséquences, parce que ne pas pardonner, c'est laisser un poison dans notre cœur. Ne pas pardonner, c'est du poison. C'est la meilleure illustration, parce que ne pas pardonner va se répandre dans nos autres relations. Un enfant qui n'a pas pardonné à un de ses parents et qui part dans la vie en se disant « ça va aller », qu'est-ce qui va se passer? Il va retrouver des gens qui vont lui rappeler son père, sa mère. Et il va revivre cette animosité envers d'autres personnes. Si la maladie continue, elle va se répandre à d'autres. Et nos relations, notre amour va devenir prisonnier de ce pardon. Notre amour va devenir prisonnier de ce manque de pardon. Parce que, finalement, on veut du mal à quelqu'un d'autre si on ne pardonne pas. Vous pouvez le tourner de toutes les façons que vous voulez. Ne pas pardonner, c'est de vouloir du mal à quelqu'un d'autre. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, vous avez cette personne qui dit « tant que l'autre ne me rend pas tout, je ne permets pas. Je ne laisserai pas l'autre partir. » Colline.
Stéphane, est-ce que tu peux répéter les caractéristiques de
quelqu'un qui ne pardonne pas?
Oui.
Quand on ne pardonne pas, il y a, va y avoir de la dureté de cœur, de l'amertume, dureté de cœur, hardness of heart. Je peux te donner une liste aussi longue que tu veux, Colline. Je peux même te montrer comment ça vient progressivement. Voilà. Dureté de cœur, hardness of heart, jalousie, jealousy, amertume, bitterness, colère, anger. On s'arrête là. On peut aller dans tous les détails. Pourquoi? Parce que ne pas pardonner, c'est laisser le péché commencer entrer dans notre cœur. Si vous voulez, dans le monde, vous avez deux règles. Vous avez la règle de la propagation de l'amour et la règle de la propagation du péché. La question, c'est laquelle règle règne dans votre cœur? Propagation du péché, c'est quand je suis blessé, je veux blesser l'autre. C'est pour ça que Dieu a travaillé à travers le temps. Quand quelqu'un m'a fait du mal, ma réaction logique et charnelle de la chair, de l'être humain normal, c'est « je veux lui faire du mal en retour parce que ça m'a fait mal. Je veux que l'autre sache combien ça fait mal. » Vous avez déjà vu des enfants? Il m'a pincé. Je veux le pincer pour lui montrer comment ça fait mal. En général, quand on fait un retour, l'idée derrière, c'est « je veux lui pincer au moins aussi durement que lui m'a fait mal. » Pour que lui ressente au moins la même douleur. On ne se préoccupe pas de savoir si ça fait plus, on veut qu'il ait au moins autant que nous. Et Dieu, face à cette logique, a dit, attention, œil pour œil, dent pour dent. Dans le sens, n'allez pas plus loin que ça. Ce n'était pas une façon de dire, frappez les autres, c'est, ne frappez jamais quelqu'un au-delà de ce qu'il vous a fait du mal. Mais ça, c'est la règle de base. Après, la règle suivante, c'est, si vous réfléchissez bien, les blessures que nous avons reçues, si nous les infligeons aux autres, ça va détruire. Et à un moment donné, il faut qu'on dise halte là à cette loi de destruction. Et ça va être la loi d'amour qui vient avec Jésus-Christ, qui dit « Je suis venu, vous avez fait du mal à Dieu quelque part. Vous m'avez fait du mal, il va dire aux êtres humains, parce que nous, en tant qu'humanité dans son ensemble, on a dit « crucifie-le » quand Jésus était en procès. Et vous et moi, nous étions unis d'une façon ou d'une autre, aux personnes qui ont dit « crucifie-le ». Et c'est par la foi que nous nous détachons de ces personnes en disant « non, nous demandons pardon ». Avec Pierre, nous disons « pardon ». Et Jésus invite à aimer, dira à Pierre « m'aimes-tu ». Alors il dit « prends soin ». Et nous avons la deuxième loi d'amour. Pour propager l'amour, il faut encore l'avoir reçu. Si nous n'avons pas reçu d'amour dans nos vies, il y a très peu de chances que nous en transmettions. C'est plus nous recevons que nous pouvons donner. Et si nos parents humains nous ont donné peu, tournons-nous vers Dieu qui va nous donner abondamment. Ne nous appuyons pas sur un être humain pour remplacer nos parents. Aucun être humain ne remplacera nos parents. C'est Dieu qui nous permettra de recevoir et d'expérimenter l'amour. et la communauté chrétienne est appelée à communiquer cet amour de Dieu. C'est pour ça que le pardon n'est pas une option pour une communauté chrétienne, c'est le fondement qui nous permettra de nous pardonner, parce que dès que nous, des êtres humains vivent ensemble, il y aura des blessures. Et nous devons guérir ces blessures en tant que communauté. Cette propagation du péché, j'aimerais vous en donner un exemple dans ma vie. En général, quand on prépare, des fois avec Dominique, Sandra, Frédéric, je leur dis, ne donnez pas de témoignage personnel en général. Faites-le, non pas comme la règle, mais comme l'exception. Aujourd'hui, je vais faire une exception. Donc, gardez-le comme exception. Mais aujourd'hui, je vais faire une exception. Je vais vous donner un témoignage dans ma vie, comment il y a eu la loi du non-pardon, de l'amertume, et comment Dieu est venu pour me délivrer de cela, et qu'est-ce qui s'est passé. Dans ma vie, je dirais, vous me voyez comme quelqu'un assez à l'aise aujourd'hui, j'espère assez respectueux, ça n'a pas toujours été le cas. Même quand j'en parle à Sandra, je dois lui dire, demande à ma famille, demande à ma sœur, et elle, je lui ai dit, imagine un peu, parce que par la grâce de Dieu, j'ai changé. Mais j'aimerais vous décrire un peu qui j'ai été. Quand j'étais jeune, vers 4 ans à peu près, à l'école, changement d'école, tout petit, j'arrive le premier jour de l'école et on était près d'une cité de voyous. Vous avez certaines cités comme ça, La Réunion aussi. Et un des voyous les plus durs de l'école commence à me taper dessus le premier jour. Moi j'étais chouchouté, à ma gentil parent, mais il commence à me donner des coups. C'était un leader de bande, un chef d'une bande, si vous voulez, et les enfants avaient peur de lui. Ce qui s'est passé le premier jour s'est répété régulièrement. Crache à humiliation, insulte. Et j'ai commencé à devenir finalement le souffre-douleur, qu'on appelait comme ça. La maîtresse, en petite maternelle déjà, voyait bien qu'il y avait des problèmes. Elle me disait, si tu veux rester à l'intérieur, quand il y a la récréation, parce qu'à chaque fois je me faisais tabasser, tu peux rester. Mais si je faisais ça, c'était pire à l'extérieur. 4 ans, 5 ans, 6 ans. J'étais pas appelé par mon nom, j'étais appelé par des insultes, tous les jours, à l'école, et avec tous mes copains. Jusqu'à 12 ans, ça a été ma vie. Et à 12 ans, il s'est passé quelque chose. J'en ai eu marre d'être humilié. J'en ai eu marre d'être insulté. J'en ai eu marre qu'on me frappe, que je sois le premier. Et vous savez, quand on a été humilié, dans les nouvelles situations où on est, vous redevenez celui qui est humilié. Après coup, je me disais, mais pourquoi quand j'allais en colonie, au bout de 2 jours, je redevenais celui sur qui on tapait? Pourquoi ça arrivait, ça? J'en ai eu marre de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Vers 12 ans, dans mon cœur, j'ai décidé plus jamais. J'ai commencé à haïr. Haïr ma faiblesse. Parce que je ne comprenais pas pourquoi. Si vous n'avez pas été capable de répondre à la violence, vous vous sentez coupable. Je me sentais coupable de ne pas arriver à répondre au mal. Quelque part, c'est une bonne chose que je n'ai pas rendu le mal, parce que finalement, ça n'est pas la solution. Mais le problème, c'est que j'ai toujours eu le mal qui me tombait dessus et je ne savais pas comment m'en protéger. Et j'ai choisi dans mon cœur, en cœur d'enfant, de jeune adolescent, de dire « plus jamais, je ne pardonnerai plus, je vais réussir dans ce monde ». Et j'ai commencé à haïr. Haïr d'abord ma propre faiblesse. J'ai haï qui j'étais. J'ai haï les autres et j'ai commencé à apprendre à humilier les autres. J'ai commencé à apprendre comment on pouvait blaguer sur quelqu'un d'autre, comme ça les autres, au lieu de me taper moi ou m'humilier moi, allaient humilier celui que j'avais humilié en premier. Vous connaissez les règles? Il y a des gens qui vous disent, pour ne pas recevoir de coups, frappez le premier. Vous avez déjà entendu des gens qui parlent comme ça? C'est un peu la règle que j'avais commencé à utiliser. Quand j'étais jeune ingénieur, je réussissais dans les études, mais à l'intérieur de moi, il y avait de la haine, de l'amertume. Je n'avais pas d'amis. Je n'avais pas de personne avec qui je pouvais être proche. Parce que les gens qui m'étaient proches, je les humiliais. C'était la technique que j'avais trouvée. Et il y a eu un problème, c'est que je me suis rendu compte que quand je n'ai pas pardonné cette dureté, j'espère que, et je crois que personne d'entre vous n'est à ce niveau de dureté, mais je vous dis ce que ça peut faire. Cette dureté m'empêchait d'aimer. Je m'apercevais que finalement, je ne pouvais pas avoir de petit ami. Quel petit ami aurait voulu que je l'humilie? Je ne savais pas encourager, je savais juste humilier au mieux, très rapidement. Je savais le faire. Et une fois, une jeune femme qui n'était pas, qui n'est pas Sandra, j'étais amoureux d'elle. Et c'était au laboratoire de robotique, j'ai écrit une lettre. Et elle me dit, bah, si tu veux, tu peux venir me rencontrer. Et il se trouve que cette jeune femme était chrétienne. Elle ne m'a jamais aimé, ce n'était pas la femme pour moi. Elle s'est mariée avec un autre homme. Mais j'ai commencé à aller des rencontres avec des chrétiens. Et un des premiers problèmes, c'est que j'étais habitué à humilier. Donc qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai commencé à venir? J'ai regardé. Vous savez, on est habitué. Hein, quand on connaît cette technique, on reconnaît tout de suite en 10 secondes lequel est le faible dans le groupe. Et qu'est-ce que je faisais? Je commence à humilier le faible dans le groupe. Tiens, c'est celui-là. Je commence à faire une blague et je vois comment ça fait rire les autres. Et j'ai eu un problème, j'ai vu que ça faisait rire personne. Je me suis dit, zut, là, il y a un truc qui cloche. Mince alors, j'ai réessayé 2-3 fois, ça ne répondait pas. Et j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait une autre dynamique en jeu. Et à un moment donné, dans mon cœur, ça a éclaté. Un jour, j'étais en train de marcher dans la rue, et dans ce désir d'aimer... Alors je disais que j'aimais la personne, mais je vais être honnête avec vous, c'était pas beaucoup d'amour. Je voulais être aimé par la personne. C'est souvent la confusion qu'on a. Il y avait des sentiments dans mon cœur et je voulais que l'autre m'aime. Un jour, j'ai explosé dans la rue. J'ai eu les souvenirs que j'avais oubliés parce qu'après que j'ai eu 12 ans, j'ai oublié toutes les humiliations. C'est comme si on oublie les choses trop douloureuses. Et j'avais 24 ans et tous les souvenirs, 12 ans d'humiliation, quasiment, ou 10 ans d'humiliation me sont revenus à la face. Et là, c'est comme si ma vie était détruite et j'ai cru que je devenais fou. J'ai pleuré dans la rue, je me suis cassé en deux et j'ai dû aller me cacher. Il y a une petite chapelle, je me suis caché en pleurs dans une chapelle et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai commencé une psychanalyse, je me suis dit, je vais devenir fou. Et je me suis rendu compte que la solution, ce n'était pas la psychanalyse, c'était Dieu. C'est que j'avais été blessé et que je ne connaissais pas la loi du pardon. Je ne connaissais que la loi de la rétribution du mal pour le mal. Et j'ai commencé à pardonner. Oh, j'en ai des paquets. Il y en avait un une fois, je jouais au foot, j'avais 15 ans cette fois-ci, j'étais tombé, et juste devant le gardien de foot, et lui, il m'avait shooté dans le bras, il m'avait plié le bras en deux. Il ne m'avait pas dit pardon. Je ne faisais pas partie des gens à qui on demandait pardon. Il était parti, et il ne m'avait jamais demandé pardon. Bon ben, j'ai pardonné à cette personne. Ensuite, j'ai repensé à celle qui m'avait fait plus de mal. Et j'ai commencé à pardonner. Et aujourd'hui, je peux vous raconter avec ça, c'est comme si je parle d'une autre personne, d'un homme qui est mort. Celui que j'étais est mort aujourd'hui. Pas par mes forces. Honnêtement, je vais vous dire, je suis un chien. Devant Dieu, je suis une larve. Mais Dieu m'a pardonné. Il me permet même d'être en train de prêcher devant vous en tant que pasteur. Vous imaginez un peu le... Si j'avais été comme j'étais à l'époque, vous auriez voulu être mon ami?
De loin.
De loin. Et Dieu m'a fait grâce. Et je dirais, tant qu'on n'a pas compris de la dureté de notre cœur, la dureté de combien on peut faire du mal aux autres, eh bien on va continuer à être dans la logique du mal. Et j'ai eu à reconnaître que je faisais du mal. Que finalement, je voulais être libéré de cette dureté. Que je voulais être capable d'aimer. Ne pas pardonner nous empêche d'aimer. Notre amour sera prisonnier. Ça peut être dans un couple, ça peut être entre parents, enfants, ça peut être dans toutes les formes. Si vous ne pardonnez pas, vous serez des esclaves. Vous serez des esclaves du péché, telle cette personne qui a refusé de pardonner. Et c'est une loi spirituelle que Dieu a enseignée, que Dieu nous transmet à travers Jésus avec le plus de clarté qu'il peut. Jésus essaye d'être très clair. Il parle de 70 fois 7 fois. Il parle de 10 000 talents et ensuite de 100 deniers. Il essaye de dire, le pardon n'est pas une option. Le pardon est une loi du royaume. Et on va en reparler la semaine prochaine. Et Colline, je reparlerai plus précisément des dégâts, combien nous devenons otages quand nous ne pardonnons pas. Quand nous ne pardonnons pas, nous devenons otages de nos émotions. Un otage, est-ce que c'est pas quelque chose de joli? Un otage, c'est par exemple, il y a des personnes qui entrent dans une banque, qui disent, qui prennent un fusil ou un pistolet, qui prennent un caissier et qui disent « si vous ne me donnez pas l'argent, je lui tire dessus ». On appelle ça du chantage aussi. Ils disent « si vous ne me donnez pas ce que je veux, moi je vais faire du mal ». Ne pas pardonner, c'est prendre un otage. Ne dire « si l'autre ne répare pas les torts qu'il ou elle m'a fait, je refuse de pardonner ». Je refuse de vouloir du bien, je refuse et je souhaite plus ou moins consciemment le mal à l'autre. Mais en faisant ça, c'est pas l'autre qu'on prend en otage, c'est nous. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On retient de nous l'amour, le respect, la douceur. On retient finalement le bien et on ne peut plus laisser les bonnes choses dans notre nature humaine s'exprimer, la grâce, l'encouragement, la joie, tout ça va disparaître. Pour moi, avant que j'aie pardonné, j'étais comme quelqu'un qui a été anesthésié, qui ne sentait plus. Je dirais, c'était extrême dans mon cas. Tellement extrême que par exemple, quand on m'avait cassé le bras, je ne sentais rien. J'avais fait de l'aviron de compétition, j'étais le chef d'un bateau de 8 et mon entraîneur aimait bien parce que je ramais jusqu'à tomber dans les pommes. J'avais une telle haine de la souffrance que j'allais continuer jusqu'à ne plus être sensible. Et ça, finalement, ça n'est pas sain. On parle des fois du sport, on vous dit c'est super. Le sport, il y a des aspects positifs, des aspects négatifs. Dans une course d'aviron, par exemple, je vais vous dire comment ça marche. Ça dure 1500 mètres ou 2000 mètres. Les 500 premiers mètres, on rame avec tout ce qu'on a. On donne toute l'énergie. On appelle ça l'effort anaérobie. C'est-à-dire que... ou aérobie, je ne sais plus. Bon, l'effort où toute l'énergie, l'oxygène que vous avez dans le sang va être utilisée. On rame le plus fort qu'on peut. Au bout de 500 mètres, il se passe une chose. L'énergie que vous avez a disparu. Si vous écoutez votre souffrance, vous lâchez les rames et vous dites « je n'en peux plus ». C'est à ce moment-là, on te dit « ne te concentre pas sur la souffrance, concentre-toi sur la course ». Et nous, la technique, on nous disait « pense à la longueur ». Tu penses juste à faire le mouvement entier. Parce que c'est tellement difficile à ce moment-là que si tu n'y penses pas, tu finis pas la course. Et on arrive à la fin de la course comme ça. Si je regarde à ma souffrance, je ne vais pas tenir. Par rapport au pardon, c'est la même chose. C'est une question de perspective. Si je regarde au mal que quelqu'un m'a fait, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être rempli des dégâts que la personne a fait dans ma vie et au lieu d'être libéré, je vais les laisser ces dégâts continuer, comme une plaie qui s'infecte. Les dégâts, finalement, quand je ne pardonne pas, je dis à l'autre, le mal que tu m'as fait, je le garde en moi, et je le laisse continuer à faire ses dégâts. C'est comme quand, si vous mettez un petit pansement pour dire, oh c'est bon, c'est réglé, mettez un petit pansement et en dessous, il y a une plaie profonde. Et quand la plaie n'a pas été nettoyée, qu'est-ce qui va se passer? Ça s'infecte. Et s'ils s'infectent profondément, qu'est-ce qui va se passer? La gangrène. Aujourd'hui, on ne connaît plus cette maladie. Eh bien, si nous ne pardonnons pas, sur le long terme, c'est la gangrène. Et je vais vous dire, j'ai été quelqu'un qui avait la gangrène. J'ai été quelqu'un plein de haine. Ah, je sais. Et quand je vous parle de ne pas pardonner, je sais ce que c'est. Quand je vous parle de haïr, de mépriser, d'humilier, d'insulter, je sais ce que c'est, malheureusement. Mais je sais aussi les dégâts que ça fait. Je sais aussi comment ça me détruisait à petit feu. Et que j'étais incapable d'aimer et d'être heureux. Et cette gangrène, finalement, soit on la laisse, soit on veut en être guéri. Et ça va être vraiment le sujet de la semaine prochaine, comment on va laisser sortir cette gangrène de notre vie. Et je vais vous donner des critères pour reconnaître, j'en ai donné quelques-uns à Colline, s'il y a des points non pardonnés dans votre vie. C'est assez facile. Un des points clés du non-pardon, ça va être la difficulté à garder votre calme, la colère qui explose. Ça va être un des critères. De dire du mal des personnes, toutes ces habitudes, de dureté envers les autres, tout ça, ça fait partie de cette petite gangrène qui commence dans nos cœurs. Et on voit vraiment comment Jésus nous dit, non, cette gangrène ne doit pas rester. Cette gangrène ne doit pas rester pour être libérée. Et vraiment, je vous parlais d'insensibilité à la douleur, c'est ça. C'est vraiment cette insensibilité à la douleur de l'autre et à notre douleur que de ne pas pardonner. C'est comme si finalement on dit c'est pas grave, je vais laisser cette relation, je vais compartimenter. Vous savez, dans notre monde moderne, on est très fort pour compartimenter. On dit, cette personne m'a blessé dans ce domaine-là, je compartimente. Je vais vous dire un truc. Si nous sommes blessés sur le lieu de travail et que nous ne pardonnons pas, ça va toucher toutes nos relations de travail. Si nous sommes blessés dans l'amitié, ça va toucher toutes nos amitiés. Si nous sommes blessés dans la famille et que nous ne pardonnons pas, ça va toucher toutes nos relations de famille. Et ça va s'étendre. C'est une maladie qui, si elle n'est pas traitée, fait des dégâts catastrophiques. Dans la vie de nous, mais dans la vie, le pire, de ceux que nous aimons le plus. Ceux que nous aimons le plus vont souffrir de ces dégâts. Et nous avons à vraiment, pour pardonner, changer de perspective. Non pas regarder à nous, un tel aurait dû faire ceci, ceci, cela. Tant qu'il ne l'a pas fait, je retiens mon amour. Vous savez quelle attitude c'est ça? C'est du non-pardon. On emprisonne l'autre en lui disant, si tu n'as pas fait ceci, 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 cela, moi, je ne fais rien. Ça, c'est rendre l'autre prisonnier. Et ça détruit les couples, ça détruit les relations d'amitié, ça détruit tellement d'endroits. Le pardon, c'est composé de deux mots, par et don. Le plus important, c'est le mot don. Le pardon est un don que vous faites à l'autre. Pour pouvoir le faire, il faut que vous le receviez, et donc vous centrez sur Dieu et non pas sur vous. Une autre histoire que je lisais hier, que je trouve très bien pour bien comprendre que le pardon, c'est d'abord changer de perspective. Il y avait un petit enfant, sa maman lui disait depuis tout petit, « Tu dois nourrir Pépé. » Alors le petit enfant, depuis tout petit, apportait à manger à Pépé. Quand l'enfant a grandi, est devenu ado, il a dit à sa maman, « Maman, j'en ai marre de nourrir Pépé. J'en ai vraiment marre, je ne veux plus le faire, fais-le toi-même. » Comme les ados peuvent savoir le faire. La maman s'assoit et lui dit, « Mon fils, viens, nous devons parler. Tu es assez grand maintenant, il faut que je te raconte une histoire. » L'enfant s'assoit, sa maman s'assoit et lui dit, « Tu sais, Pépé n'a pas toujours été comme ça. Quand il était plus jeune, il n'était pas paralysé comme il l'est maintenant, c'était un athlète, c'était vraiment quelqu'un de très fort aussi. » Mais une fois, il s'est passé quelque chose. Tu étais petit enfant et il y a eu le feu dans la maison. Moi, j'étais au premier étage, ton papa, ou au rez-de-chaussée, ton papa était au sous-sol et quand nous avons vu qu'il y avait du feu, on est sorti. Moi, je croyais que ton papa était avec toi, qu'il t'avait sorti. Ton papa croyait que tu étais avec moi et que je t'avais sorti. On est sortis tous les deux par deux sorties différentes. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que tu étais au premier étage avec le feu dans la maison. Ton pépé est rentré. Il t'a pris et il est sorti. Mais il a été gravement blessé. Il a été gravement blessé. Et les séquelles que tu vois aujourd'hui sont les séquelles de ce jour-là. Ce jour-là, ce jeune enfant a changé d'attitude. Et il a commencé à apporter la nourriture à son pépé, non plus en rognant, en rechignant, mais en étant reconnaissant. C'est cette transformation que Dieu veut faire dans vos cœurs et dans mon cœur, afin que le pardon ne soit pas difficile, mais joyeux, et que nous comprenions combien il est le fondement de toute communauté humaine. Si vous voulez une vie de joie et d'amour, une clé que vous ne pouvez pas laisser dehors, c'est le pardon. Si vous voulez la paix dans vos foyers, pardonnez. Et si vous ne pardonnez pas, soyez prêts aux conséquences du pardon. J'ai essayé de vous en décrire quelques-unes, par mon témoignage personnel exceptionnel, et aussi par des histoires qui vous aident à comprendre, j'espère, comment le non-pardon va vous détruire et détruire ceux que vous aimez. J'aimerais maintenant vous inviter à la prière et vous demander, est-ce qu'il y a des personnes dans votre vie à qui vous n'avez pas pardonné? Est-ce qu'il y a des personnes à qui vous dites, je ne ferai pas ceci envers cette personne tant que... Ça, c'est du non-pardon. Est-ce qu'il y a des personnes de qui vous dites cette personne m'a blessé, c'est inacceptable, c'est vraiment horrible, je ne m'en remettrai jamais. Tant que vous ne pardonnez pas, vous restez victime. Et la semaine prochaine, je vous parlerai aussi comment des pays entiers sont prisonniers du non-pardon. Comment cela peut être une maladie qui se répand au niveau de nations. Et je vous prendrai quelques exemples. Je vais vous prendre un exemple aux États-Unis, je vous prendrai un exemple en Afrique du Sud aussi, ou à La Réunion. Mais avant qu'on vienne à cela, j'aimerais vous demander, dans le profond de votre cœur, est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont fait du mal et à qui vous avez voulu garder rancœur en disant, cette personne, je veux qu'elle paye. D'une façon ou d'une autre, je veux qu'elle paye. Si vous dites ça, vous devez être prêt à lire la dernière phrase. C'est ainsi que mon Père vous traitera si chacun de vous ne pardonne son frère de tout son cœur. Il n'est pas dit, ne pardonne en superficie. C'est dur, hein ? Il dit, pardonne de tout son cœur. Et pour le faire, vous devez changer de perspective. Le centre, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Tant que notre vie est centrée sur moi, je serai mon propre juge. Et au jour du jugement, je serai ma propre condamnation. Si c'est Dieu le centre, alors nous pourrons accueillir sa grâce et son pardon et le manifester aux autres. Demander la protection de Dieu quand il y a des personnes qui peuvent faire des dégâts, bien sûr, et demander sagesse. Mais vivre comme des enfants du royaume et non pas comme des enfants des ténèbres. Je vais finir par un mot de prière, par une minute. Et ma question est la suivante. Est-ce que la maladie du non-pardon est dans votre cœur? Est-ce que vous reconnaissez ces dégâts déjà? Est-ce que vous voulez en sortir et être libéré? Parce que ce n'est pas seulement l'autre qui va être libéré. C'est d'abord vous-même qui êtes des prisonniers. C'est vous-même qui êtes en otage. C'est vous-même qui êtes des esclaves. Mais Dieu nous dit « La vérité vous rendra libre ». Et la première vérité, c'est que nous avons été pécheurs, que nous avons fait du mal et que Dieu veut nous en délivrer. Seigneur Jésus-Christ, nous te remettons une minute de prière que nous puissions penser à l'histoire de ce petit enfant qui, à un moment donné, a joué le jeu, un peu comme nous quand on commence à pardonner comme nouveaux chrétiens. Puis à un moment donné, on dit « on en a marre, c'est trop difficile, on ne veut plus jouer le jeu ». Et comment, dans cette histoire, la maman aide l'enfant à changer de perspective. Que nous aussi, Seigneur, tu nous aides à changer de perspective, à prendre conscience que nous ne sommes pas arrivés par hasard dans ce monde. Nous avons reçu beaucoup d'amour et de grâce pour être ici présents ensemble et que nous avons beaucoup de raisons d'être reconnaissants. Donne-nous, Seigneur, de méditer pendant cette minute. Sonde nos cœurs. Guide-nous, Seigneur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Merci pour ton amour envers nous. Merci parce que tu ouvres un chemin pour nous délivrer du péché, nous délivrer de notre péché et du péché des autres. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton pardon sur la croix, toi qui as donné ta vie pour nous montrer que le péché c'était grave, que les dégâts de notre péché étaient très sérieux. Et nous montrer, Seigneur, que tu voulais ouvrir un chemin au plus profond de ton amour. Et que ce chemin, tu veux que nous apprenions à le vivre et à le transmettre pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous d'être cette communauté dans laquelle la correction fraternelle existe, le pardon existe, afin que nous puissions être une communauté de guérison, de grâce et de paix. En ton nom, nous prions, Seigneur Jésus-Christ. Amen.